un peu. Alors bonjour à tous, vous pouvez prendre place. Ça te fait pas un peu bizarre d'être sur scène là ?
Oui, devant mon papa, il y a le...
Bonjour. Bonjour.
Attends, il y a le... Regarde, il y a...
Alors bonjour à tous. Vous pouvez...
C'est bon, j'ai compris.
Bonjour.
Vas-y.
Bonjour à tous. Vous pouvez prendre place. Ça te fait pas un peu bizarre, Zoé, d'être sur scène là ?
Oui, devant tout le monde, tout ça. C'est un jour particulier aujourd'hui, non ?
Ouais, c'est le culte de fin de caté. Tu sais ce que c'est ?
Non, c'est quoi le culte de fin de caté ?
Je vais te faire le déroulement. Alors tout d'abord, nous on est sur scène. Après, toi tu fais ta prière. Ensuite, il y aura quelques chants de louanges et quelques questions pour les jeunes du caté. On a hâte, franchement. Et les petits pourront partir. Et après, il y aura une petite lecture juste après quelques chants. Mais je m'en souviens plus qui suit.
Alors, après il y aura ta prière, il y aura une prédication par Philippe. Il y aura encore un chant, il y aura une surprise, nous non plus on n'est pas au courant. Il y aura les annonces à la fin et il y aura notre bénédiction à la fin. Alors maintenant on va prier. Merci Seigneur d'être présent avec nous aujourd'hui, merci de nous écouter et merci de nous entendre te louer. Amen.
Alors pour introduire ce temps de louange, j'ai Harmonie qui va nous lire le texte biblique qui servira de support à ce qu'on va chanter après.
Psaume 119, les versets 65 à 72. Seigneur, comme tu l'avais promis, tu m'as fait du bien, à moi qui suis ton serviteur. Apprends-moi à apprécier et à connaître ta volonté, car j'ai toute confiance en ce que tu veux. Avant d'être accablé, je m'égarais. Mais maintenant, j'observe ce que tu as dit. Tu es bon, Seigneur, et tu fais du bien. Enseigne-moi ta volonté. Des personnes insolentes me salissent avec leurs mensonges. Mais moi, je prends à cœur ce que tu exiges. Ils ont l'esprit bouché, mais moi, je me délecte de ton enseignement. C'est un bien pour moi d'avoir été accablé, car j'ai appris quelle est ta volonté. L'enseignement qui sort de ta bouche vaut mieux pour moi que des milliers de pièces d'or ou d'argent.
merci. Je sais pas, tu arrives à afficher éventuellement le texte, Raymond, je ne sais pas si tu arrivais, mais... Ouais, c'est pas grave. Juste pour le reprendre. Mais... Au début du verset 71, l'auteur du psaume, il dit « C'est un bien pour moi d'avoir été accablé. » Alors, est-ce que l'auteur du psaume est maso? J'aime être accablé. Yeah. Non, je crois qu'il donne une autre explication. Il parle de sa vie d'avant, au début du passage. Puis il en parle en disant « Avant d'être accablé, je m'égarais. » Alors, une autre traduction qui dit « Je faisais fausse route. » Le GPS était en panne, j'étais paumé, je ne savais pas où aller. Et puis, après avoir été accablé, l'auteur du psaume, il peut dire « C'est un bien pour moi d'avoir été accablé, car j'ai appris quelle est ta volonté. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ben, quand on ne connaît pas la volonté de Dieu, on s'égare. On est perdu dans la vie. On fait fausse route. Alors, n'est-ce pas dans cette situation que nous étions tous, avant de rencontrer Jésus-Christ et de lui donner notre vie, égarés, perdus, accablés par le poids de notre péché, accablés aussi par le péché que nous subissons. Et là, le psaume en fait mention et l'auteur parle de d'avoir été sali par des mensonges. Alors le poids de nos fautes, et puis ajouté à celui du mal que nous rajoutent les autres, c'est lourd, n'est-ce pas? Le mal, c'est un fardeau, et quel fardeau? On dit, c'est l'enfer, des fois. Ben, l'enfer, c'est le lieu où il ne sera plus jamais possible d'être déchargé de ce fardeau. Et fondamentalement, l'enfer, c'est ce que nous méritons tous. Mais bonne nouvelle. Quand Jésus dit « Venez à moi, car mon fardeau est léger », ça signifie que c'est justement du fardeau du mal qu'il veut nous libérer. Et rappeler tout ce mal, c'est pas du masochisme, mais c'est nous permettre de mesurer la grâce que Dieu nous fait. En nous déchargeant de ce fardeau. Alors cette grâce, l'auteur du psaume, il la reçoit et elle change sa vie. Il y a un avant, il y a un après. Il y a avant d'être accablé, je m'égarais. Mais maintenant, j'observe ce que tu as dit. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut recevoir de manière juste cette grâce, c'est en observant ce que le Seigneur dit. Alors j'espère que chacun de vous peut dire avec l'auteur du psaume, « Tu es bon, Seigneur, et tu fais du bien. » « Tu es bon, Seigneur, et tu fais du bien. » Ou encore, l'enseignement qui sort de ta bouche vaut mieux pour moi que 1000 jackpots à l'euro million. Alors chantons pour louer Dieu, pour cette grâce qu'il nous accorde, cette grâce de nous libérer du fardeau du péché.
On vous invite à vous lever.
Tu te donnes à la croix pour tout effacer. grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.
Chorégraphe pour le chant suivant.
Je viens de ta présence.
J'ai une question pour toi, Zoé. Comment ça se passe, une soirée caté?
Alors, tout d'abord, on arrive. Il y a un moment du goûter. Il y a le baby-foot aussi. Après, on va sur les canapés. Il y a un moment de lecture avec la Bible. On a une méthode coca, ils vont l'expliquer après. Et puis à la fin, souvent, on a des jeux de cartes ou des molkis dehors, des trucs comme ça. Voilà.
Et toi, Mathis?
Du coup, comme elle a dit, on arrive à 17h. Souvent, quand on arrive, il y a des gens qui se battent avec des oreillers. Tout va bien, il n'y a pas de blessés à la fin. Ensuite, on attend que tout le monde arrive pour prendre le goûter. Et il y a un moment de lecture de la Bible, du coup.
Ok. Est-ce que Harmonie a quelque chose à dire?
Et parfois, du coup, on fait des jeux dehors. Et pour la méthode coca, parfois, on fait des groupes aussi.
Excellent. Alors, Raphaël, qu'est-ce que tu aimes le plus au caté?
C'est le fait qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on parle.
Qu'on parle de quoi, par exemple?
De Jésus et de ses miracles.
Merci. Et toi, Victor, qu'est-ce que tu préfères?
Moi, ce que j'ai préféré, c'était quand on se retrouve en groupe et puis que on apprend des trucs sur Dieu, Jésus, parce qu'il a fait plein de miracles.
Ok. Merci. Et toi, Mike?
Quand tu m'apprends des choses, tu as aussi ce que tu fais dans ta vie.
Ok.
Comment Jésus peut t'aider?
Comment Jésus peut t'aider? Ouais, ça t'a été utile plus d'une fois?
Oui.
Excellent. Et toi, Isaline, qu'est-ce que tu préfères?
L'ambiance générale du caté et la bonne humeur.
Excellent, la bonne humeur. Ça fait plaisir.
On ose quand même demander qu'est-ce que vous avez aimé le moins au caté. Ça peut nous aider pour l'année prochaine.
Ce que j'ai le moins aimé au caté, c'est la bataille des œufs, quand je me recevais des coussins dessus.
Quelqu'un aimerait dire quelque chose encore, qu'il a moins aimé, qui lui vient à l'esprit tout d'un coup?
Voilà. Alors Mathieu, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu retiens du caté? Qu'est-ce que ça t'a apporté?
Alors pour moi, le caté, ça m'a apporté des bons moments à passer avec les autres gens, et aussi à avoir des bons moments à passer avec Jésus et Dieu.
Ok, ça c'est précieux pour toi, pour ta vie?
Oui.
Excellent. Et toi, Harmonie, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce qui va rester de tout ça?
Ça m'a appris beaucoup. Enfin, j'ai pris connaissance de beaucoup des bienfaits de Jésus, de tout ce qu'il a bien fait et de tous ses miracles.
Ok, tous?
On ne les a pas tous vus, mais...
Merci. Et Yael, on a parlé de coca tout à l'heure. Je pense que tout le monde ici sait ce que c'est le coca. Peut-être tu as une autre approche du coca, toi?
Oui, coca, c'est une technique qu'on utilise pour étudier des textes bibliques. Et puis on le découpe en morceaux. Et puis coca, c'est contexte, observation, compréhension et application.
Ça, c'est pas mal. Hein. C'était toujours un peu le concours de... N'est-ce pas, Jérémy? De savoir ce que voulait dire coca, alors je sais, c'est facile. Ok, excellent. Et ça t'aide comme méthode?
Oui, comme ça, c'est plus simple à comprendre, en fait.
Est-ce que tu penses que c'est une méthode que tu pourrais garder pour toi, pour quand tu lis ta Bible tout seul chez toi?
Je pense, oui.
Excellent. D'autres aussi ont cette idée-là de garder coca? Merci.
On a passé aussi des très bons moments à manger ensemble. Chaque vendredi, quelqu'un nous amène un goûter. Des parents, des amis. Alors, on s'est dit qu'on allait poser quelques questions à ce sujet. Justine, quel est ton goûter préféré ou ton repas préféré?
C'est Bob. En gros, c'est un délire avec Zoé. C'est un concombre que Zoé a fait tomber par terre pendant la soirée hot dog.
Eyal.
Oui.
Quel est ton repas préféré? On le sait tous, mais on aimerait bien que tu le dises.
Mon repas préféré, c'est les hot dogs.
Tu ne seras plus là l'année prochaine. On se demande bien si on prend encore des hot dogs ou il y aura un autre. Isaline.
Moi, mon dessert préféré, c'est les broquis.
Les
broquis.
C'est quoi les broquis?
C'est un brownie et par-dessus, il y a un cookie.
D'accord.
Qui c'est qui a préparé ça?
Qui a préparé ça?
Ma mère.
Je pense qu'elle pourra distribuer sa recette alors. Timothée, ta maman aussi a amené des repas ou des goûters. Quel est ton repas préféré?
Ce sont les hot dogs.
Les hot dogs aussi. Bon, on est reparti pour une année de hot dogs. Hein. Et Zoé?
Alors, les pâtisseries de Joël, c'était pas mal aussi. Et les hot dogs.
Et Raphaël, on t'a pas encore entendu.
Jérémy,
moi, je me trompe encore de nom.
Les hot dogs également.
Bon, voilà. Et là, j'aimerais encore savoir qu'est-ce que certains d'entre vous ont découvert sur Jésus ou sur Dieu cette année ou durant les 3 ou 4 ans de caté que vous avez fait. Je vais demander à Victor qui a fait une année.
Moi, j'ai appris que Jésus fait le bien et qu'il guérit, il fait des miracles et on veut l'arrêter.
Ça t'a choqué, hein? Tu comprends pas. On aura l'occasion d'en reparler. Harmonie.
Moi, j'ai appris que il guérissait les malades et pas que, il guérissait aussi les personnes malades dans le cœur. Et il sera toujours là pour nous.
Super. Souvenez-vous de ça. Et Kevin?
Alors moi, j'ai appris que Dieu n'est pas un Dieu strict et sévère, mais que c'est un Dieu d'amour et de joie et qu'on pouvait rire, faire des blagues tous ensemble au caté et que Dieu, il aimait ça.
Merci beaucoup.
Maintenant, les enfants, vous pouvez aller en bas et voilà. Ah oui. Est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir 11 ans l'année prochaine pour qu'ils viennent au KT? Ilan et Ayana. Ben voilà.
Alors, passez un bon moment avec vos moniteurs. On fait quoi maintenant?
On va redescendre. Hein. Vous devez faire quelque chose.
J'ai cet espoir, tel une autre témoignage, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour, toutes mes craintes. Pour mon âme, une œuvre en âme.
richesse éternelle.
Lisons Marc 7, 1 à 23.
Les pharisiens et quelques spécialistes des Écritures venus de Jérusalem s'assemblent autour de Jésus. Ils voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées selon la coutume. En effet, les pharisiens, comme tous les juifs, sont attachés à la tradition des anciens. Ils ne mangent pas sans s'être lavé les mains avec soin et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergé d'eau. Ils respectent beaucoup d'autres pratiques, lavage des coupes, des pots et des plats de bronze et des lits. Les pharisiens et les spécialistes des Écritures demandent donc à Jésus :
pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens et prennent-ils leur repas avec des mains impures ?
Jésus leur répondit :
vous êtes des hypocrites. Esaïe avait bien raison lorsqu'il déclarait de la part de Dieu à votre sujet ce qui est écrit.
Ce peuple m'honore en parole, mais leur cœur est loin de moi. C'est en vain que ces gens me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des prescriptions humaines.
Vous laissez de côté les commandements de Dieu pour suivre la tradition humaine.
Il leur disait encore :
vous êtes habiles pour rejeter le commandement de Dieu afin d'établir votre propre tradition. Moïse a dit en effet :
tu respecteras ton père et ta mère, et aussi celui qui maudit son père ou sa mère qu'il soit mis à mort.
Mais vous, vous dites à quelqu'un :
tu as le droit de déclarer à ton père ou à ta mère ce que j'aurais pu te donner. Pour t'aider est corban, ce qui veut dire une offrande réservée à Dieu.
Et donc vous autorisez cette personne à ne plus rien faire pour son père ou sa mère. De cette façon, vous annulez la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. et vous faites beaucoup d'autres choses du même genre. »
Jésus appela de nouveau la foule, et il leur disait,
« Écoutez-moi, vous tous, et comprenez bien. Il n'y a rien de ce qui est extérieur à une personne qui puisse la rendre impure en entrant en elle. Mais ce qui sort d'une personne, voilà ce qui la rend impure. »
Quand Jésus fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Et il leur disait,
« Êtes-vous donc, vous aussi, sans intelligence, ne comprenez-vous pas ? Aucune chose de l'extérieur ne peut rendre une personne impure quand elle entre en elle, car ces choses n'entrent pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être ensuite éliminées. »
Par ces mots, Jésus déclarait que tous les aliments sont purs. Il ajouta,
« C'est ce qui sort d'une personne qui la rend impure, car c'est au-dedans du cœur de l'être humain que viennent les mauvaises pensées. Elles le poussent à vivre dans la débauche, voler, tuer, commettre l'adultère, vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, commettre des actes honteux, être envieux, dire des insultes, être orgueilleux et insensé. »
Tout ce mal sort du dedans et rend la personne impure. Et jusqu'ici la parole de Dieu.
Donc je vais introduire Philippe avec la prière. Seigneur, je te prie qu'on puisse entendre ce que Philippe a à nous dire. Je te prie qu'on puisse retenir, qu'on puisse appliquer dans nos vies aussi tout ça. Je te remets vraiment cette prédication entre tes mains. Amen.
On va essayer d'appliquer ce matin la méthode dite COCA au beau texte que nous avons lu. COCA pour contexte, observation, compréhension, application. Vous avez un outil pour lire votre Bible. Tout simple. Contexte, observation, compréhension, application. Ça ne veut pas dire que toute la Bible est tout d'un coup rendue évidente en une seule lecture, hein, mais ça peut nous aider. Et on essaye de filer à nos jeunes, à vos enfants, à la génération présente qui va grandir, j'espère, avec l'Église, des outils. C'est un des buts du caté. Je ne sais pas si on arrive à envoyer mon slide. Voilà, merci. Aujourd'hui, les gens s'intéressent beaucoup à la pureté des aliments par rapport aux organismes génétiquement modifiés, les OGM, par rapport aux pesticides et aux autres polluants, par rapport aux sucres ajoutés, par rapport aux traces possibles d'allergènes dans les aliments, comme l'arachide, par exemple. Dans ce cas-là, quand on s'intéresse à ça, l'enjeu, c'est la santé. Pour d'autres personnes, il y a un souci religieux. Pas de porc, pas de jambon, pas d'aliments faits avec de la gélatine de porc, comme ces super sucreries qu'on trouve au magasin de tabac. Hein. Les Haribo. On n'a pas le droit de citer... Merci, Harmonie, tu connais les Haribo ? Les petits nounours Haribo, c'est fait avec de la gélatine de porc. Je dis ça juste pour vous décourager d'en manger trop. Hein. Pour d'autres encore, le souci de la pureté alimentaire, elle va jusqu'à se préoccuper de la vaisselle ou des frigos, ou encore des gens qui ont touché les aliments. Là, on parle d'une pureté rituelle. Il y a donc l'enjeu de la santé, le souci religieux et la dimension rituelle. Et il y a des gens religieux, pour qui la pureté compte beaucoup. Comme là, dans le passage de l'évangile de Marc, que nos jeunes vous ont lu, Marc 7, 1 à 23. Là, dans ce passage, on a affaire à des gens religieux, des vrais de vrais, des tatoués, pour qui la pureté compte beaucoup. Ça va sous le contexte ? Vous l'avez ? Cool. On va observer. On a posé le contexte, on va observer. Donc le contexte, c'est des gens religieux pour qui la pureté compte. Des bons chrétiens. Maintenant, pourquoi est-ce que les pharisiens de notre texte, les docteurs de la loi, hein, les pros de chez les pros, pourquoi est-ce que ces gens avaient tort au point que Jésus va les remballer ? Pourquoi ? Moi, je suis sûr que quand vous étiez enfant, vos parents vous demandaient de vous laver les mains avant de passer à table. Oui ? Encore maintenant, Victor, tu étais le premier à lever la main. Ça a l'air important chez les Lorèches de se laver la main. Pas Johan. Mince. Donc ça, c'est normal, hein, les parents qui demandent aux enfants de se laver les mains avant de passer à table. Parce que vous aviez joué dehors, vous aviez ramassé des vers de terre, vous aviez fait du foot dans le parc, et puis le ballon, il n'avait pas roulé que sur de l'herbe. Donc, se laver les mains, c'est un truc tout à fait normal. Et puis celles et ceux qui travaillent dans les hôpitaux le savent. Faut se laver les mains régulièrement, souvent, comme il faut. Alors, pourquoi les pharisiens de notre texte avaient tort d'attaquer les disciples de Jésus sur cette question de la pureté des mains ? Ben d'abord, nous dit le texte, et ça, c'est la compréhension qui nous aide à le voir. Hein. D'abord, à cause de la motivation des pharisiens. Leur motivation, c'était quoi ? Le respect, je suis allé trop vite. Le respect d'une tradition religieuse, dit notre texte. Ça, c'était leur motivation, verset 5. Donc la motivation, ce n'était pas une question d'hygiène. Si ça avait été une question d'hygiène, Jésus leur aurait rien reproché. Le problème, c'est qu'ils voulaient respecter une tradition des ancêtres. Ils attachaient beaucoup d'importance aux traditions. Ce qu'on a fait jusqu'ici, on a continué de le faire. Ce qu'on a toujours fait, c'est la norme. Mais attention avec les traditions. Ce que la tradition religieuse demande et ce que Dieu demande, ce n'est pas souvent la même chose. Ensuite, on peut dire que les pharisiens avaient tort parce qu'ils ont refusé aux disciples un champ de liberté personnelle. Ils ont voulu tout organiser, tout maîtriser. Romains 14, verset 4. « Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. » De quoi tu te mêles ? Les choses, c'est entre Dieu et toi. De quoi tu te mêles ? Pourquoi cherches-tu à régir la vie des gens ? Leur façon de s'habiller, de manger, d'être tatoué ou pas. De quoi tu te mêles ? C'est entre Dieu et lui. Mais les pharisiens, comme bien d'autres depuis, voulaient prendre le contrôle de la vie des gens. Et voulaient le faire sur des choses insignifiantes. Nous les appelons, nous, dans notre langage, des légalistes. Parce que le moindre détail de la loi comptait énormément pour eux. Ils étaient prompts à juger les autres d'après leurs apparences extérieures. Ils ignoraient les motivations des gens. Et c'était très humain. Et je crois que ça pourrait être encore notre problème aujourd'hui. Juger les gens d'après les apparences. Et puis un autre trait très humain qui faisait que les pharisiens avaient tort, c'est qu'ils se sont sentis menacés. Les religieux se sont sentis menacés. Parce que Jésus et parce que les premiers chrétiens ne faisaient pas comme eux. Ils se sont sentis menacés parce que quelque chose changeait. Pas seulement le fond de scène, mais des habitudes extérieures. Ils se sont sentis menacés. Et les pharisiens ressemblaient à beaucoup de personnes religieuses, attachés aux traditions, soucieux de choses extérieures, craintifs par rapport au changement. Et ces gens-là, ces pharisiens, doivent être un avertissement pour nous. Ils doivent être un avertissement pour nous. Alors, compréhension. Jésus répond aux pharisiens. Jésus répond aux pharisiens sur deux points. Déjà, il va contester leur manière de s'appuyer sur la tradition, versets 6 et suivants. Parce que le problème avec la tradition, c'est qu'on la cite pour contourner et pour annuler la parole de Dieu. Ce que nous avons toujours fait n'est pas forcément la seule manière de faire, n'est pas forcément la meilleure manière de faire. Il faut accepter d'être remis en question, il faut accepter de relire la Bible, il faut accepter de la contextualiser, il faut toujours chercher à discerner la pensée de Dieu. La parole de Dieu, elle ne change pas. J'y tiens dur comme fer. Mais nos circonstances changent. La vie humaine n'est que changement. Alors Jésus répond aux pharisiens sur la question de la tradition en mettant en avant la seule parole de Dieu. Puis il se tourne vers l'ensemble de la foule pour dire à tous que le vrai problème de la pureté, ce n'est pas une question d'hygiène, ce n'est pas une question d'alimentation. Le vrai problème, c'est la pollution spirituelle. Versets 14 et 15. Écoutez-moi, vous tous, et comprenez bien, il n'y a rien de ce qui est extérieur à une personne qui puisse la rendre impure en entrant en elle, mais ce qui sort d'une personne, voilà ce qui la rend impure. Jésus dit donc, pour être très clair et pour le paraphraser, que ce n'est pas ce que nous mangeons qui nous rend spirituellement impurs. Pour lui, toutes les nourritures sont pures, toutes. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, dit-il. Ni la nourriture, ni les médicaments, ni le vaccin. La préoccupation avec la nourriture et avec les rites traditionnels, ça c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt. La vraie pollution, la vraie impureté, c'est celle que nous produisons nous-mêmes de notre propre fond. Le problème, ce n'est pas ce qui est extérieur, c'est ce qui est intérieur. C'est le cœur. Et nous, les chrétiens évangéliques, souvent, nous inversons le problème. Nous filtrons les mouches et nous avalons des chameaux. Ici, dans la bouche de Jésus, nous avons alors une liste de choses qui nous rendent impropres pour Dieu, qui nous salissent, qui nous polluent. Elles ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent des mauvaises pensées du cœur, dit Jésus. On pourrait se tromper sur le sens du mot cœur. Ce n'est pas pour dire que les choses mauvaises viendraient du cœur et que les choses bonnes viendraient de la tête. Dans le langage biblique, le cœur, c'est le symbole de tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un être. Ses sentiments, son intelligence, sa volonté, c'est ça le cœur dans le langage biblique. Et Jésus alors nous donne un catalogue de polluants qui viennent de notre être intérieur. Un catalogue de choses qui sont les manifestations de pensées mauvaises qui se trouvent en nous. Et elles sont de plusieurs sortes. Et je suis obligé de m'arrêter sur le catalogue que Dieu nous donne rapidement. j'ai relevé des mots qui parlent d'abord de notre comportement sexuel, de notre éthique vis-à-vis du sexe. Jésus parle d'immoralité. Ça, c'est un terme dans sa bouche qui couvre toute l'immoralité sexuelle. L'adultère, plus précisément la trahison du mariage, les vices, les convoitises. La sexualité, elle est bonne, mais elle est souvent détournée de son but. On en a beaucoup parlé avec les jeunes cette année. La sexualité, c'est quelque chose de bon, mais elle est souvent détournée de son but. La sexualité, elle peut venir construire un couple, mais quand elle est détournée de ce but, elle peut polluer et les couples et les personnes célibataires. Dans la même liste, il est question de vol, de meurtre, de méchanceté. C'est très classique, c'est les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne seras pas méchant, tu ne voleras pas. On est sur les 10 commandements. Puis, il y a des choses moins classiques, comme la tromperie ou la ruse, par exemple. Être malin, plus malin que l'autre, tromper les autres, mentir, ce sont des choses qui nous salissent. Exagérer pour obtenir gain de cause, c'est une forme de mensonge qui nous salit. Et puis il y a des sentiments dans la liste de Jésus, des sentiments qui nous salissent aussi, comme l'envie, la jalousie, l'orgueil. Personne ne les connaît, ces sentiments. Personne ne les connaît. Sauf Dieu. Tout le monde nous trouvera beau. Sauf Dieu. Et puis il y a des paroles qui nous salissent, et notamment le mal que nous pouvons dire des autres, la calomnie. Vous savez, quand on fait un portrait peu flatteur de notre prochain, quand nous grossissons ses défauts, quand nous ne tenons pas compte de ses progrès, quand nous faisons une caricature de notre prochain, du coup, non seulement on salit notre prochain, mais Jésus dit qu'on se salit soi-même. Jésus nous donne tout un catalogue de polluants pires que le kérosène des avions de coin-train. Pire que ces produits qui tuent les abeilles. Pire que l'amiante. Ces choses-là, le kérosène, l'amiante, les produits qui tuent les abeilles, elles viennent du dehors. Elles affectent notre santé. Mais Jésus, lui, nous parle d'une pollution que nous générons tous depuis notre fort intérieur. Ce n'est pas ce qui entre en nous qui nous pollue, c'est ce qui sort de nous. Une dernière remarque avant de conclure. Pour les pharisiens, la crainte de l'impureté allait encore plus loin que ces questions de nourriture et de mains sales. Ils pensaient, les pharisiens, que fréquenter certaines personnes rendait impurs aussi. Les païens, les pécheurs notoires, certains malades comme des lépreux ou cette femme qui avait des hémorragies. Ils étaient scandalisés lorsque Jésus est allé manger chez Zachée, le collabo. Et là, le message de Jésus, il est super clair. Non seulement on a le droit de manger de tout, comme Jésus l'a fait, mais surtout, nous avons le devoir d'aller vers des gens de toute race, de toute condition sociale, comme Jésus l'a fait. Il a touché des lépreux, il a mangé chez Zachée, il a discuté avec des femmes qui avaient une vie tellement douteuse, il s'est arrêté auprès d'elles. Ces gens-là ne le rendaient pas impur, jamais. Au contraire. À son contact, ces gens-là se retrouvaient repris dans leur conscience, se trouvaient guéris et rendus à la vie. La sainteté de Jésus, elle se voyait dans l'amour. Et si nous voulons, nous, montrer notre sainteté, elle ne pourra se voir que dans l'amour. Tout le reste, c'est du légalisme. Et ça nous condamne. C'est un vrai défi pour nous. Certains chrétiens ont la réputation de chercher la petite bête, de juger d'après les apparences, d'être rigides dans leurs pensées et tellement secs dans leur cœur. C'est des chrétiens qui penchent dangereusement du côté des pharisiens. moi j'ai envie de pencher un peu plus du côté de Jésus. J'ai envie d'une église qui penche un peu plus du côté de Jésus. J'ai envie que cette génération fasse 1000 fois mieux que nous, en penchant plus que nous et plus vite que nous du côté de Jésus. Je conclus avec une double application. Pour de nombreuses religions, on l'a dit, il est important de se laver les mains, peut-être le visage, peut-être les bras jusqu'au coude, avant de s'approcher de Dieu. Ne pas le faire, ce serait ressenti dans ces religions comme une offense à Dieu. Mais, si c'est le cœur qui est pollué, si c'est le dedans qui est abîmé, qui peut le laver ? 1 Jean 1, 7 à 9, Jésus-Christ a fait la purification des péchés pour nous en s'offrant lui-même à la croix. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Si le cœur est pollué, il n'y a que lui qui peut le laver. Et pour se garder pur, on fait comment alors ? Comment on fait pour se garder pur ? Alors non pas en nous préoccupant du moindre détail de la foi, non pas en nous coupant des gens, surtout pas en nous coupant des gens, mais en suivant l'exemple de Jésus. La religion pure et sans tache, vous la voulez ? La religion pure et sans tache, devant Dieu le Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. La voilà, avec Jésus, la vraie sainteté se voit dans l'amour. Tout le reste n'est que garniture. Que le Seigneur bénisse cette génération. On va bientôt prier pour elle. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Amen. Avec Mireille, Joël et Rebecca, nous avons très envie de prier pour ces jeunes. Nous avons aussi une surprise pour nos 7 finalistes, mais 6 seulement sont là. Men, je ne pouvais vraiment pas être là ce matin. On est tout désolé. Il recevra sa surprise, surtout s'il gagne son tournoi de tennis. Mais nos 6 autres finalistes sont là. Et puis voilà les jeunes qui vont continuer le KT, d'autres vont nous rejoindre. Et nous avons vraiment envie de prier pour eux maintenant. J'aimerais simplement dire que c'était une année exceptionnelle avec vous, à plein d'égards. Vous avez été, pour Joël, pour Mireille, pour Rebecca, pour moi, très souvent des vrais encouragements. Pas seulement dans nos échanges super profonds et très spirituels, il y en a eu, mais aussi dans les vrais moments de jeu, de pâtisserie, de repas. On refera des hot dogs, je crois. Mais priez pour cette génération. C'est pas simple d'avoir 11, 12, 13, 14, 15 ans en 2023. Et j'aimerais que nous puissions ensemble les recommander à Dieu. Je vais proposer à Rebecca de commencer, à Mireille de continuer, et puis Joël et moi, nous finirons ce temps de prière.
Ouais, merci Seigneur pour cette génération. Merci pour tout le monde qui était là avec nous, qui va rester avec nous, Seigneur. Je te demande que tu les bénisses, que tu les équipes avec tout ce qu'ils ont besoin pour leur vie. Tu sais, les challenges, les défis qu'ils sont confrontés avec, Seigneur, toi, tu es le seul qui peut donner les outils qu'ils ont besoin. Et je te demande aussi de donner des gens à leur côté avec lesquels ils peuvent échanger, qu'ils peuvent partager leur cœur pour savoir comment continuer s'ils ont des soucis, s'ils ont des défis à surmonter, Seigneur. Merci pour qui tu es et que tu les bénisses. Amen.
Oui, merci Seigneur pour tous ces ados que tu nous as confiés durant cette année et pour tout ce que nous avons pu partager, apprendre ensemble. Oui Seigneur, on apprend tout au long de notre vie. Et que tout ce qu'ils ont appris sur Jésus, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il est, Seigneur, puisse être inscrit dans leur cœur et dans leurs pensées. Et je te demande qu'ils puissent s'en souvenir dans les moments moins faciles, qu'ils puissent se souvenir que tu les aimes, que tu les connais parfaitement et que tu es celui qui peut les guider, les aider, les accompagner. Et je te prie aussi pour que nous, en tant qu'Église, nous ayons à cœur de prier pour eux, que nous soyons aussi ouverts à des discussions avec eux, que nous puissions faire un pas vers ce qu'ils vivent. Oui, c'est une génération qui vit des choses pas faciles, mais que nous puissions aussi essayer de comprendre et que tu puisses nous aider dans cela. Oui, Seigneur, merci pour toutes choses, car tu es celui qui nous aime. Amen.
Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans son amour. Ainsi, vous aurez la force de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour de Christ est large et profond, large et long, haut et profond.
Cher Seigneur, j'aimerais te nommer les jeunes que tu nous as prêtés cette année. Toi, tu les connais déjà, Seigneur, mais ensemble, nous voulons les recommander à ta grâce. Alors, je te prie pour Isaline, je te prie pour Victor, je te prie pour Mike, je te prie pour Harmonie, je te prie pour Zoé, je te prie pour Timothée, je te prie pour Mathieu, je te prie pour Justine, je te prie pour Kevin, je te prie pour Jérémy, je te prie pour Raphaël, je te prie pour Mathis et je te prie pour Eyal. Et j'aimerais te remercier, Seigneur, de ces jeunes gars et de ces jeunes filles de qualité. Je te remercie pour ce que tu as semé dans leur vie. Et j'aimerais juste te demander, Seigneur, de le faire croître pour que ces jeunes hommes, ces jeunes femmes deviennent des hommes et des femmes de foi qui marchent avec toi, qui répandent ta grâce et ton amour. J'associe à cette prière Mensch qui n'est pas avec nous et je te prie de prendre soin de lui et de continuer à l'accompagner dans son cheminement. Nous te prions ensemble dans le nom de Jésus. Amen.
Alors maintenant il y aura un temps de prière communautaire que je conclurai avec ma prière.
Thank you. c'est qu'il vaut mieux ne pas trop se préoccuper des impuretés et se préoccuper d'aimer les autres, sachant que nous sommes aimés de toi. Seigneur, nous avons souvent peur des autres, alors que ton amour vienne nous rassurer pour que nous puissions mieux les aimer. Amen.
Amen.
Merci Seigneur pour ces jeunes. Merci parce que tu les as doués de talents. Merci parce que tu seras avec eux chaque jour de leur vie. Je te demande qu'ils s'en rendent compte, qu'ils puissent donner leur fardeau, leurs difficultés, qu'ils puissent te connaître chaque jour davantage, Seigneur, et savoir à quel point tu es un Dieu puissant et plein d'amour.
Oui, Seigneur, je te remercie pour ces jeunes. Je te remercie pour tout ce que tu leur as donné, pour tout ce qu'ils ont à nous donner aussi dans les prochaines années. Je te prie qu'on puisse les accompagner toute génération, qu'ils puissent leur montrer ce qu'ils ont vécu, leur faire contempler qui tu es, Seigneur, au travers de ce qu'ils ont apporté. Je te remercie pour la suite dans les épreuves qu'ils auront à avoir dans ces prochaines années. Au nom de Jésus.
Amen.
Seigneur, j'aimerais te demander de les visiter par ton Saint-Esprit et qu'ils découvrent vraiment toujours plus la joie qu'il y a de vivre une vie avec toi. Seigneur, que tu les accompagnes jour après jour. Tu connais les défis auxquels ils devront faire face. Que tu sois avec eux à chaque instant. Et Seigneur, qu'ils soient remplis de cette joie et qu'ils aient aussi envie de la partager. Seigneur, nous invoquons ta protection sur chacun d'eux et nous voulons les bénir au nom puissant de Jésus. Amen.
Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie et de la vie éternelle. Nous te rencontrons encore ces jeunes, Seigneur, pour qu'ils te rencontrent sur leur chemin de vie, qu'ils puissent vraiment expérimenter la réalité de ta présence, la réalité de ta parole, qu'ils puissent vraiment s'appuyer sur toi dans toutes les circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Seigneur, bénis-les au nom de Jésus.
Amen.
Seigneur, je veux aussi te prier pour Rebecca, pour Mireille, pour Joël et Philippe, aussi pour leur engagement pendant cette année, les années. Je te prie de les renouveler, de leur donner la joie, de leur donner des idées, de l'enthousiasme pour accompagner nos jeunes. Et Seigneur, que si tu suscites aussi d'autres personnes dans la communauté pour les rejoindre, pour les rejoindre, puisse parler à ces personnes-là. Nous les bénissons en ton nom. Amen.
Alors, je vais demander à ceux qui continuent l'année prochaine de rejoindre leur chaise. Zoé, mets-toi pas trop loin parce qu'après toi, c'est moi. Après moi, c'est toi. Donc, Mike, Victor, Isaline, Harmonie, Timothée, Mathieu et Zoé. Mais Zoé, c'est particulier parce que Zoé, tu vas vivre une très grande aventure à partir de cet été, je crois. Vous partez sur l'île de la Réunion, c'est juste. Donc on vous retrouvera un peu plus tard et on demande vraiment à Dieu de vous accompagner dans cette grande aventure à l'autre bout du monde. Et on demande à Dieu de faire reposer sur votre famille les polaires toute sa grâce. Et Zoé, tu vas beaucoup nous manquer, mais on sait qu'on va te retrouver encore plus en forme que cette année. Donc on se réjouit déjà. Nos finalistes, on a parlé d'une surprise en deux temps. On va faire le spi d'abord et puis la rigolade après. Pour le spi, est-ce que je peux vous demander un petit peu d'aide? On a décidé de vous offrir une Bible. On est super créatifs. Hein. C'est vachement bien la Bible, c'est la parole de Dieu, elle contient la parole de Dieu. Et nous offrons à chaque jeune finaliste une belle version de la nouvelle Bible en français courant, une Bible qui parle un peu le même langage que nous. Une Bible complète qui devient leur Bible à eux. Moi, je vous encourage de tout mon cœur à la lire, à la méditer, avec ou sans coca. Elle vous dira ce que Jésus a fait et fait pour vous. Il y en a une en rabe pour Mensch. C'est la vôtre. J'espère qu'elle vous accompagnera longtemps et qu'elle sera source de vie pour vous. Et puis, pour la rigolade, on a décidé de faire écho un peu à ce qu'on a entendu cette année. Vous avez entendu parler de coussins et d'œufs et de batailles de coussins. Il y a eu des moments assez mémorables. Moi, j'allais me réfugier dans mon bureau, en général. Et voilà, chacun de nos finalistes va recevoir un petit off, ça va aller, tu vas pas te prendre en pleine tête, Justine, on va te donner gentiment, enfin je crois, peut-être, je sais pas, je sens Joël capable de tout. Donc chacun reçoit à son nom un petit off, juste pour vous rappeler les bonheurs qu'il y a d'être ensemble. Si vous avez pris quelques photos, merci de m'en faire suivre l'une ou l'autre. Là, j'ai pas réussi à en prendre. Je vais en prendre une maintenant. Tac. Avec l'équipe KT, s'il vous plaît. Qui c'est qui peut en prendre une ?
Alors, on arrive au temps des annonces et j'aimerais donner la parole à Mathieu et Pauline Schmitt.
Bonjour. Re, comment on dirait ? Enfin, personne ne dit ça. Enfin, si, peut-être. Je vais essayer d'être bref. Simplement pour ceux qui ne connaissent pas, on est Mathieu et Pauline Schmitt. On est parti pour 10 mois dans le cadre d'un échange universitaire que j'ai fait avec l'université de Madison, Wisconsin. Et on est rentré jeudi dans la soirée. Et du coup, voilà, c'était pour la première chose. On est là, on est de retour. Et la deuxième petite annonce qu'on voulait vous faire, c'était vous inviter à notre mariage qui aura lieu le 9 septembre. Donc voilà, pour la faire très très courte, le faire-part normalement devrait être sur le tableau à l'entrée. S'il y a encore un tableau à l'entrée, je ne sais pas. On en a un si jamais. Ou sur lequel il y aura donc le site internet pour le lieu, l'heure, etc. Le fait qu'il ne faut pas s'habiller en blanc, enfin, toutes sortes d'informations utiles. on trouvait vraiment important de vous inviter en tant qu'église. Vous êtes l'église, on est l'église dans laquelle nous avons grandi depuis qu'on est petit, comme ceux qui sont tout en bas. Et voilà, enfin, on tient énormément à vous tous, vous toutes, et on vous aime très très fort. Oh.
Oui. Et maintenant, j'aimerais donner la parole à Michaela.
Bonjour à toutes et à tous, je suis là parce que je vous annonce officiellement qu'on va fêter les 60 ans de l'EM. Et pour ça, en fait, on a fait des petits groupes et puis on a créé en fait des événements. Et puis les événements vont se passer deux dates. Le 16 septembre, donc c'est pour les voisins dans le quartier et pour les familles. Et puis, ça se passe la journée. Et puis, le soir, c'est pour les jeunes. On organise un concert où il y aura plusieurs artistes qui vont faire du rap et du hip-hop. Ce sera essentiellement des artistes chrétiens, mais ce ne sera pas toujours des chants tournés autour de la foi. Mais c'est des artistes chrétiens. Ensuite, il y aura le 23 septembre d'abord, où il y aura une soirée louange organisée et l'idée par David Jeunecamp. Et puis, ensuite, le 24 septembre, ce sera la fête de l'EM, donc les membres de l'EM et quelques invités. Donc voilà, ce sera toute une journée, et puis le soir, ça se terminera avec un concert de gospel. Voilà. Donc vous pouvez... Déjà, je remercie énormément les personnes qui ont travaillé autour de ces projets, parce que c'était vraiment... vraiment un grand travail d'organiser un événement comme ça. Et ils ont donné, vraiment. Et puis, j'aimerais vous demander aussi de prier pour tout ça, parce que c'est super important... Enfin, dans le sens où c'est un événement énorme, et du coup, on a vraiment besoin de vos prières pour nous accompagner là-dedans, dans les préparatifs. Et puis, on va sûrement venir vers vous pour vous demander de l'aide par rapport à ça. Et surtout, de venir participer à l'événement, au petit festival qui va se passer le 16 septembre. Voilà. Merci.
Le mardi 20 juin, à 20h15, il y aura le dernier atelier biblique de la saison, animé par Philippe, la transmission de la foi, l'Église et l'évangélisation. Mercredi soir, le CTT, le groupe de jeunes. Le vendredi 23 juin, de 17h à 20h environ, soirée de clôture du caté à l'Église évangélique de Mérin. Le dimanche prochain, 25 juin, culte avec les baptêmes de Telmo Steiner et Kevin Saber, suivi par un apéritif. Notre église de Mérin vit et se développe grâce à vos dons. Merci de votre générosité.
Avant que Zoé nous donne la bénédiction, j'aimerais simplement qu'on puisse remercier chaleureusement, féliciter par nos applaudissements les jeunes du KT. Ils se sont mis en quatre pour proposer ce culte. Ils ont été au taquet dans les répétitions, à l'heure ce matin, entre 9h20 et 9h30. Tout le monde était là, je suis admiratif. Et j'aimerais juste qu'on puisse vous remercier chacun, chacune. Merci.
Je vais faire la bénédiction, je vous invite à vous lever. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qu'il est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine, bon dimanche et bon apéro après. Merci.